C'est Ludique, 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio.
Bienvenue dans C'est Ludique, les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de Terra Nova. Donc, c'est une version simplifiée de Terra Mystica. On retrouvera Jonathan en fin d'émission, exceptionnellement aujourd'hui, puisque Marie est partie en croisière. Il nous fera donc le débrief du festival de Vichy. Et tout de suite, c'est passé sous les radars avec Rachel. Salut Rachel.
Coucou Matt et coucou les gens.
Et Rachel, quel jeu je n'ai pas parlé dans C'est Ludique l'année dernière ?
Oui, et je crois même que c'est plus récent, je crois me rappeler, je ne me rappelle plus, je suis nulle. Nous sommes au mois de septembre et je crois
que c'est janvier, je crois que c'est janvier.
Bon, ça va. Alors, on est bon, on est dans les temps, et non, tu n'as pas parlé alors que c'est un jeu fabuleux. Donc le jeu s'appelle « Demain, tu m'as tué ». Et c'est un jeu mis dans la catégorie expert de chez Yellow, qu'on sait parfois plus initié que expert, uniquement à deux joueurs.
D'accord, donc c'est du deux joueurs.
Voilà, et c'est un jeu qu'on pourrait décrire comme abstrait si des gens ont besoin de mettre des jeux dans des cases, tu vois, dans l'esprit d'un Santorini. L'idée, c'est qu'on a trois plateaux qui vont représenter trois lignes temporelles.
D'accord.
Le passé, le présent, le futur. Chaque joueur commence avec un pion sur chacun de ses plateaux et avec quatre pions supplémentaires en réserve. Un de nous deux a inventé la machine à voyager dans le temps. Et le meilleur moyen de s'accréditer la découverte de cet objet incroyable, c'est d'aller éliminer celui qu'il a réellement créé.
D'accord.
Pour s'en approprier la création.
Okay.
Donc en fait, c'est un duel dans lequel, en fait, comme il y a trois plateaux, tu vas essayer d'éliminer la présence de l'adversaire sur deux lignes temporelles. Tu vas essayer de le tuer sur deux plateaux.
D'accord, donc tu vas passer de plateau en plateau ?
Oui, on va voyager dans le temps. À ton tour, tu as deux actions que tu peux faire avec un seul et même pion et sur la ligne temporelle sur laquelle il y a ce qu'on appelle un jeton focus.
D'accord.
Tu as déterminé au tour précédent qu'au tour suivant, tu jouerais sur ce plateau-là. Et tu prends de tes pions, et comme tout jeu abstrait digne de ce nom, vraiment mon plus grand rapprochement que je peux faire, c'est Santorini.
Ouais.
Les actions, elles sont ultra simples. Et c'est vraiment la force de ces jeux-là, de pouvoir te dire, je ressors dans 6 mois, là, j'ai pas eu besoin de réviser mes règles.
Ouais.
Je vais pouvoir me déplacer, et dans mon déplacement, je peux te pousser, je t'entraîne avec moi. Mais je peux aussi, si je te pousse, parce que le quadrillage est tout petit, de 4x4, si je te pousse contre un mur, splash !
C'est mort.
Pardon, j'ai peut-être fait un peu trop de bruit.
Non, non,
je t'écrase et je t'élimine.
Ah oui, d'accord, c'est bien ce que je dis, t'es mort.
Et je peux même créer des paradoxes temporels. Si j'arrive à te pousser de toi-même sur toi-même, je tue les deux d'un coup. Mais je peux effectivement voyager dans le temps. Et il y a deux notions dans le voyage dans le temps. Tu peux voyager dans le futur et à ce moment-là, ton pion se déplacera du plateau N au plateau N plus 1.
Mmh.
Excusez-moi, c'est la mathèse en moi qui parle. Mais je peux aussi voyager vers le plateau N moins 1. À ce moment-là, ce n'est pas un déplacement, je me duplique. Je reste là où j'étais et je me mets aussi sur le plateau précédent.
D'accord,
et c'est comme ça qu'on va venir récupérer des pions de notre réserve. Mais il faut faire attention parce que si on prend tous les pions de notre réserve, même si on reste en vie, on va se retrouver à rester coincé dans le futur parce qu'on n'aura plus la ressource nécessaire pour voyager dans le passé.
Ah ouais, donc tu vas faire des copies de toi.
Des copies de moi, exactement. Et tout ça pour essayer de t'éliminer, d'essayer de te scratcher contre les murs, comme tu l'as bien compris. Et en fait, là où c'est vraiment merveilleux, parce que là, je te parle du jeu de base, mais le jeu est évolutif. Il y a 4 boîtes à l'intérieur avec des règles additionnelles, mais jamais lourdingues. Mais déjà, rien que ce jeu de base-là, vraiment, il est merveilleux. C'est une épure du genre. Et les parties, elles ont des saveurs différentes entre les joueurs qui vont justement se dupliquer en quantité assez folle, avoir une armée d'eux-mêmes sur un plateau, ceux qui vont vraiment se positionner de manière stratégique, parce que quand tu te téléportes sur une autre ligne temporelle, tu restes sur la même coordonnée, d'anticipation de pousser l'erreur à l'autre. Et vraiment, en fait, tu vois, c'est un jeu abstrait, autant mécaniquement que thématiquement, pourrait dire à certains. Mais ce thème décalé de voyage dans le temps fait que tu te l'appropries. Par exemple, dans la première boîte, qui est vraiment pas un spoil, puisqu'on te conseille d'y jouer même très rapidement, ça peut même être la partie d'initiation.
D'accord.
Il y a la notion de graine. Il y a une action supplémentaire. Tu peux planter une graine. Et forcément, dans le temps N plus 1, ça devient un buisson.
Après,
un objet supplémentaire sur lequel je peux te scratcher. Et puis, dans le temps N plus 2, s'il y est, ça devient un arbre que je peux pousser, qui peut tomber sur quelqu'un, être un obstacle supplémentaire encore pour s'éliminer. Et vraiment, c'est ce que je dis toujours, le week-end où j'achète cette boîte de jeux, un vendredi après-midi, on passe un week-end très drôle à la maison où nous sommes trois, et on passe un week-end un peu geek, tu sais, où on vient d'acheter un nouveau jeu vidéo et on y joue à tour de rôle.
Ouais.
Mais les deux qui ne jouent pas aux jeux vidéo sont sur la même table, sont juste à côté du canapé, et s'affrontent sur ce jeu-là, et vraiment, c'est incroyable.
Et alors, donc, du coup, y a de ça, on est sur un jeu très, très stratégique, on est un petit peu style les échecs, j'ai envie de te dire.
Oui, on est sur quelque chose comme ça, mais vraiment avec 10 fois moins de règles.
Oui, oui, ça, au niveau des règles, ça n'a pas l'air bien compliqué.
Non, et t'as une petite fiche qui te rappelle tout. C'est l'épure des jeux abstraits, le plus proche, c'est Santorini. J'aime ces jeux abstraits avec peu de règles parce qu'en fait, il n'y a pas de stratégie gagnante. C'est toujours de l'adaptation. Et tu joues, alors ça paraît terrible à dire, mais tu joues jusqu'à ce que l'autre commette une erreur.
Ouais.
Voilà, il n'y a pas de stratégie gagnante, mais il y a des stratégies perdantes.
Il y a de sacrés bons jeux de joueurs cette année, j'ai l'impression. Hein.
Oui, bah, ils ont enfin compris que c'était la configuration dans laquelle les gens jouaient le plus. Et c'est pas si contraignant que ça, parce que vraiment, à la maison, les très bons jeux à deux, on y joue alors qu'on n'est pas deux. Et il y a toujours ce côté-là dans les très bons jeux à deux, où il y a le troisième qui trépigne pour prendre le vainqueur de la table. Donc,
très bien.
C'est pas si contraignant.
Eh ben, merci beaucoup, Rachel. On se retrouve mardi prochain.
À la semaine prochaine.
Salut. Allez, d'ici quelques instants, je vais vous parler de Terra Nova. Et puis, on retrouvera Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes qui va nous débriefer un petit peu son Vichy. Il a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, Jonathan. Et il va nous dire lesquels pour lui vont être dans le top à Noël. Réponse dans quelques minutes.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Aujourd'hui, je vous invite à explorer de nouveaux territoires et les rendre habitables. Voici Terra Nova, une version simplifiée de Terra Mystica. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne vous donnerai pas mon avis à savoir quelle est la différence avec Terra Mystica, puisque je n'ai jamais joué à ce dernier. Selon les différents avis, ce Terra Nova s'adresse davantage à un public initié et expert qui trouvait Terra Mystica un petit peu compliqué, avec trop de règles. Ici, les tours sont plus courts, il y a moins de paysages, seulement 2 ressources au lieu de 4, moins de bâtiments. Bref, on a enlevé des choses pour que ce jeu soit rapide. Comptez 1h30 au lieu de 3h. Une chose est sûre, il est plus accessible. Alors Terra Nova est un jeu de Andreas Fall localisé par Super Meeple où vous allez vous affronter pour construire des bâtiments grâce à votre faction. Au niveau matériel, vous avez un grand plateau composé des différents terrains entourés de rivières, une tuile de score avec certains objectifs et placé en bas du plateau. Ça permet de compter les manches. Chaque joueur prend son plateau faction et toutes les pièces de cette couleur. En début de partie, chaque joueur peut placer 2 maisons sur le plateau, sur des terrains correspondant à la couleur de sa faction. Ensuite, vous allez choisir une tuile bonus. Le plateau de votre faction comporte une roue de terrain avec le terrain d'origine en haut. Si vous voulez construire sur d'autres terrains, il faudra utiliser 1 ou 2 pelles. Votre plateau comporte également les 3 bols pouvoir, on va y revenir. Chaque joueur va récupérer des jetons pouvoir et quelques pièces. On a un côté asymétrique aussi, puisque les joueurs auront des capacités différentes. Terra Nova se joue en 5 manches et à chaque tour de cette manche, vous faites une action parmi 7 possibles. Quand tout le monde a passé, quand il n'a plus d'argent ou de pouvoir, on enchaîne une nouvelle manche. Le but de Terra Nova est de transformer des terrains afin qu'ils soient compatibles avec votre faction et de construire des bâtiments dessus et de les améliorer. Les bâtiments sont là pour vous donner des revenus. Justement, la première phase du jeu, c'est la phase de revenus. Là où il n'y a plus de bâtiments, c'est-à-dire que vous les avez construits, vous avez un nombre de pièces avec une main indiquée. Cela veut dire que vous allez prendre l'argent dans la réserve. Et c'est cet argent qui va vous servir à faire les différentes actions et notamment construire. L'autre chose importante dans le jeu, c'est les bols pouvoir sur votre plateau. Vous ne pouvez utiliser les jetons de pouvoir que dans le bol 3. Cela veut dire que lorsque vous gagnez du pouvoir, vous pouvez déplacer le pouvoir d'un bol à l'autre. Vous devez d'abord déplacer toute votre puissance de 1 vers 2. Ce n'est que si le bol 1 est vide que vous pouvez déplacer le pouvoir de 2 à 3. On peut utiliser du pouvoir à notre tour en plus de nos actions. Alors faisons un tour des différentes actions. Rendre habitable un terrain et construire en dépensant les pièces demandées. Par exemple, construire une maison coup de catte. On peut aussi améliorer un bâtiment en changeant une maison en comptoir ou un comptoir en palais. Bien entendu, hein, ça coûte plus cher. D'autant plus qu'il faut payer le terrain souvent avant de construire s'il n'est pas à votre couleur. Vous aurez un certain coup de pelle, 6 ou 12 pièces. Hein, donc si je construis un terrain qui n'est pas de ma couleur, qui nécessite un coup de pelle, ça me coûtera 6 plus 4, soit 10 pièces. Il y a aussi de l'interaction, hein, car si vous construisez à côté des bâtiments des autres joueurs, eh bien ils vont gagner du pouvoir. Et vous, à partir de 4 bâtiments adjacents, vous pouvez construire une ville. Quand on construit, eh bien on doit le faire sur un terrain adjacent, sauf si vous utilisez la navigation. Mais pareil, ça a un coût. Tout comme la construction de ponts pour traverser la rivière. Il y a aussi des actions de pouvoir sur le plateau. Une fois utilisée, plus personne ne pourra la faire. Jusqu'à la fin de la manche, on peut notamment dépenser du pouvoir pour gagner des pièces ou des pelles. Enfin, quand vous n'avez plus d'argent, que vous ne pouvez plus faire d'action, eh bien vous passez et vous changez de tuile bonus. Et on entame comme ça une nouvelle manche, on repasse à une nouvelle phase de revenus et aux différentes actions. Entre chaque manche, hein, les objectifs changent. Celui qui a le plus de points à la fin de la cinquième manche remporte la partie. Alors qui des fées ou des golems l'emportera, à moins que ça soit les farfades, il existe au total 8 factions puisque les plateaux sont recto verso. Une chose est sûre, hein, on ne s'ennuie pas, le jeu est court pour ce type de jeu, rapide à expliquer, une valeur sûre dans ces nouveaux de rentrée.
C'est ludique, des jeux et des hits. C'est ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et le mardi dans C'est ludique, c'est destination jeu avec Marie. Mais Marie, elle est partie, elle justement, elle a pris la destination de la croisière ludique justement. Et bien on va retrouver Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Alors tu étais à Vichy forcément il y a une semaine déjà.
Ouais.
Tu as vu certainement plein de jeux.
Beaucoup.
Je crois qu'il y en avait plus de 300 hein, qui étaient présentés.
Ouais, je veux bien te croire, hein. Je sais pas combien j'en ai vu, mais je dirais plusieurs centaines de jeux effectivement.
Voilà, et donc tu as forcément tes petits coups de cœur et les jeux que tu penses qui vont aussi fonctionner pour les fêtes de Noël.
Eh bien évidemment, je vous ai fait une petite liste de 27 jeux dont je n'aurai pas le temps de vous parler. Alors j'en ai surligné quelques-uns, peut-être ceux qui sont un peu ressortis du lot, qui m'ont vraiment plus marqué peut-être aussi par leur originalité, ce qu'ils peuvent apporter de neuf dans le jeu de société.
Ouais.
Top chrono, je commence maintenant.
Allez, vas-y, c'est parti.
C'est parti. Alors dans le désordre, moi il y a chez Hopla, il y a In Extremis de Julien Protière. Ouais. In Extremis, c'est le nouveau jeu dans la gamme de Cosmopolite, donc jeu avec application.
D'accord.
Qui va avoir un thème, un sujet assez fort, hein, comme c'était le cas dans Cosmopolite. Ça va être sur la transition énergétique.
D'accord.
On va avoir un jeu coopératif, jeu de cartes. Je vous passe les détails, mais il faut aussi de bien se coordonner en temps réel. Et donc, le jeu va être évolutif, à l'instar d'un jeu vidéo. On va débloquer des choses à chaque partie. Donc ça, ça avait l'air, comme d'hab, je dirais, avec cet auteur-là, assez novateur.
Ouais. Alors, je l'ai pas vu celui-là, tiens. Bam. Allez, c'est
alors,
le premier.
Alors, ça, c'est encore assez prototypal, on va dire.
Ah oui, d'accord. C'est pas une sortie pour Noël.
Non, ce sera pas pour cette année,
okay.
Je pense.
D'accord.
Qui devrait sortir cette année, il y a Doctor Rat de Johannes Krenner. Donc ça, c'est édité par Blue Orange.
Oui.
Ça avait l'air assez original. J'ai pas encore eu le temps d'y jouer, mais on va voir un mélange entre un Mysterium et un jeu de déduction, un peu comme le Mastermind, on va dire.
Ouais, c'est ça.
Il y a un joueur, voilà, qui va être le docteur et qui doit expliquer aux autres joueurs les rats ce qu'ils doivent manger parce que les rats sont totalement bêtes. Ils ne savent pas ce qui est mauvais pour leur corps. Donc il va leur distribuer des cartes. Les rats doivent essayer de comprendre ce qu'ils doivent manger ou non. Et au fur et à mesure des manches, essayer d'en faire des déductions. Donc pareil, ça avait l'air assez original dans la proposition. Ça a pas mal marqué l'équipe, du coup, quand on a vu ça.
Très bien.
J'enchaîne. Cat in the Box de Muneyuki Yakuchi. Je pense que là, on est sur l'un des jeux les plus marquants de l'année. Donc on est sur du jeu de pli, à l'instar du tarot. Pour les gens qui aiment le pli, je pense que c'est vraiment le jeu à pas louper.
Ah bah oui.
Donc c'est du jeu de pli sur la thématique du chat Schrödinger. Donc classique, on va faire des plis. Hein, je joue un 9, tu joues un 7, le 9 c'est plus fort. Il y aura une couleur d'atout. La grosse originalité, c'est que toutes vos cartes sont noires et blanches. Et quand vous les jouez, c'est vous qui décidez de la couleur.
Ouais.
Je joue mon 4, je dis que c'est un rouge. Plus personne ne pourra dire que son 4 est un rouge. Et au bout d'un moment, ça va créer des paradoxes. Parce qu'on ne sera plus en capacité de jouer des cartes qui existent encore.
Ouais.
Donc il y a l'air d'avoir un gros délire autour de jeu, ça a l'air très très intéressant. J'enchaîne dans les trucs aussi qui avaient l'air très chouettes. Kaori de
oui.
Charlec. Donc là, on retrouve la même équipe qui nous avait fait la bête
ouais.
l'année dernière, le jeu sur la bête du Gévaudan. Donc même éditeur, même illustrateur, même auteur. je dirais un peu même concept éditorial sur le jeu, jeu avec un thème fort historique, et j'ai totalement oublié dans quelle région du monde ça se passe.
La Nouvelle-Zélande.
Ouais, la Nouvelle-Zélande, merci Mathieu. Donc on va avoir un jeu, je sors tout de suite hein, le concept un peu marketing dont tout le monde a déjà dû parler, ça fait très route
voilà.
Du grand public.
C'est ça,
chaque
familiale.
Joueur va, voilà, c'est ça, chaque joueur va avoir un rôle différent. Donc les Anglais, bah, les colons qui débarquent, les Maoris qui étaient déjà là, les Possums, les Kiwis, donc certains joueurs jouent des animaux, et chaque joueur a une manière différente de jouer, une manière différente de marquer des points. Voilà, thème fort, historique, ça a l'air... super chouette.
Hâte de découvrir en tout cas si ça fonctionne aussi à deux, parce que forcément il va manquer du monde, à mon avis.
Alors on n'a pas encore joué à deux, nous, dans l'équipe. On a fait des parties à 3 et 4, ça marchait très bien, mais on n'a pas encore joué à deux.
Ouais.
Le jeu suivant, moi personnellement, m'a beaucoup marqué, c'est le cortège.
Ah oui, le jeu de pichenette.
Oui, le jeu de pichenette et de stratégie, hein, parce que moi l'auteur m'a vraiment dit c'est aussi un jeu de stratégie, même avant tout un jeu de stratégie, et j'étais assez d'accord avec lui. J'ai juste écrit son prénom, il s'appelle Dorian, et c'était sûrement l'une des personnes les plus sympathiques à rencontrer à Vichy. Hein. Dorian est vraiment quelqu'un de très adorable, et je vais citer aussi l'illustrateur, parce que le travail d'illustration sur le jeu est juste incroyable. Donc on est sur la thématique de la manifestation, c'est illustré totalement en noir et blanc, par Valentin Aubry. Alors ça me fait plaisir de le citer parce que Valentin Aubry, bah, c'est un confrère et un collègue nantais à moi.
D'accord.
Donc je suis très content de voir son travail. Et alors on est sur un jeu de pichenette, donc il y a une part d'adresse, mais un fort sentiment aussi de placement stratégique. Il y a un joueur qui va jouer le pouvoir en place, et puis les autres joueurs, l'autre joueur qui va jouer la manifestation. Mmh. Donc il y a vraiment des enjeux différents de chaque côté, et des enjeux vraiment stratégiques de positionnement. Donc on va essayer de vraiment de viser des zones spécifiques avec nos pions qui sont tous différents. Et une fois qu'on aura fini une manche, on verra qui a remporté celle-ci, on va pouvoir inverser les rôles, donc pour que les joueurs puissent vraiment jouer les deux côtés de la situation.
Ouais, voilà. C'est pas un jeu politique, hein.
Bah, c'est un jeu, avec un sujet fort, mais qui est pas forcément tranché dans ses propos.
Ouais.
Effectivement, là où ça fait vraiment plaisir de voir un jeu comme ça arriver en magasin, bah, c'est d'avoir un jeu qui est. Alors, je dirais pas que tous les jeux sont comme ça, mais on a quand même beaucoup de jeux qui sont assez infantilisants dans leur thématique. Et là, bah, d'avoir quelque chose de sérieux, documenté, avec un style graphique très mature, bah, ça fait vraiment plaisir.
Donc le cortège, ça s'appelle.
Le cortège. Ensuite, alors moi c'est juste, j'ai pas regardé de près encore, plein de gens en ont forcément entendu parler, moi c'est trois grands noms du jeu de société, donc ça m'a beaucoup excité, on a Rob Davio, Matt Leacock et Alan R. Moon pour Aventurier du Rail Legacy.
Eh ben oui.
Donc voilà, là mon cerveau part totalement en cacahuète, hein, j'imagine la conquête de l'Ouest,
c'est ça.
Le développement du chemin de fer au fur et à mesure des parties, voilà, bah, ça il va falloir qu'on regarde de plus près.
Ouais, c'est très il y aura une émission spéciale là-dessus.
Ah ouais, très bien. Ensuite, le jeu suivant, alors ça a marqué beaucoup de ludicaires et je pense que ça a raison, c'est Spirit. Donc l'auteur, encore une fois, c'est Julien Protière accompagné de Baptiste Laurent. Donc Spirit, on va être sur un jeu de communication coopératif où le matériel, bah, en fait, c'est quasiment la boîte du jeu qui est une table de Ouija. Il y a un joueur qui va être le fantôme, qui va avoir des choses à nous communiquer. Et donc, il va nous indiquer les lettres grâce à la table de Ouija, grâce à un petit objet qu'on va déplacer. Le problème, c'est que tous les joueurs vont déplacer cet objet. Donc, le fantôme va essayer de nous indiquer les lettres de son mot, mais les autres joueurs ont des contraintes. Par exemple, passer deux fois sur la lettre R, ne jamais passer par la lettre T. Donc, ça va brouiller la communication, il va falloir essayer de la comprendre. Et il y a vraiment quelque chose de fort dans le fait de déplacer le jeton.
Ouais, parce que tout le monde met son doigt dessus, là, et puis ça bouge de partout, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est assez intéressant dans ce que ça propose. Et après, bah, c'est aussi la thématique qui est abordée dans ce jeu. On est sur la thématique de la mort. Donc, encore une fois, bah, un sujet assez sérieux et très peu évoqué sérieusement, en tout cas dans le jeu de société. Donc, moi, j'ai hâte de voir jusqu'où ça peut aller. Il y a l'air d'avoir un contenu un peu progressif au fur et à mesure des parties. Donc, ça m'intrigue beaucoup.
On enchaîne. Ah bah, la communication ne passe plus, Jonathan, ne bouge plus.
Tu m'entends ?
Parfait.
Ok. Le jeu suivant, donc peut-être moins sérieux dans sa thématique, c'est Forêt Mixte. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, Koch. Donc ça, c'est plus pour son aspect mécanique qui m'a marqué que sa thématique. On est sur la thématique de la forêt,
oui,
de la nature.
Oui, la nature, il y en a beaucoup
donc,
de jeux là-dessus.
On en mange toutes les semaines, voilà. On s'en lasse un petit peu. Après, le jeu est vraiment très, très bien fait. pas très original, mais super plaisant à jouer. On est sur un petit jeu de cartes. On va devoir créer son tableau de cartes devant soi qui va vraiment représenter une forêt. On va faire pousser des arbres, y mettre des mammifères, des insectes, des champignons, etc. Chacune de ces cartes a des effets. Les cartes sont découpées en deux.
Ouais.
Donc ça donne plein de choix. Par exemple, d'un côté, ça peut être un raton laveur et de l'autre, un papillon. Donc ça demandera de faire des choix sur qu'est-ce que je joue. Pour jouer mes cartes, il faut que j'en jette d'autres que les autres joueurs vont pouvoir récupérer. Donc ça, c'est déjà vu, mais c'est intéressant à jouer. Là où c'est un petit peu plus marquant, c'est dans la vraie sensation du jeu qui est forte, c'est cette salade de points poussée à son paroxysme. Ça fait vraiment, pour moi, ça m'évoque Fantasy Realms. Je dirais même que ça va beaucoup plus loin dans ce sens-là, hein. C'est que tu vas faire des grosses scores dans tous les sens. C'est peut-être le jeu auquel j'ai le plus joué là, depuis que je suis revenu de Vichy. T'as envie, voilà, j'ai fait 172 points cette partie et d'aller encore plus loin la partie d'après. Donc c'est assez addictif.
Très bien, il nous reste une minute, moins d'une minute même.
Allez, j'aurais fait l'essentiel. La grosse sensation, après, je pense, du salon, c'était Sky Team de Luc Raymond. Donc là, on est sur un jeu coopératif spécialement conçu pour deux joueurs. Donc il y a beaucoup de demandes là-dessus. Et thème assez original, moi qui me fait très très peur, mais pourquoi pas, c'est de la simulation d'atterrissage d'avion. Donc vous allez avoir plein de missions avec plein de variétés dans la boîte. Il faut faire atterrir des avions sans qu'ils se crachent. Donc ça a l'air très chouette dans ce que ça propose. Communication limitée, il faut essayer de se comprendre entre les deux partenaires pour réussir à pas se casser la figure.
C'est nickel parce qu'en plus on s'est compris, Jonathan, et il nous reste que 10 secondes, donc je te souhaite une excellente journée et on se retrouve peut-être jeudi pour la spéciale
Ancient
Knowledge. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.